C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Un sujet qui est intéressant et qui a amené d'ailleurs le ministre Christian Dubé à faire un pas de recul, c'est-à-dire dans le cadre de l'aide médicale à mourir, on voulait inclure, donc permettre à des personnes qui souffrent d'un handicap neuromoteur, à la suite par exemple d'un accident, de pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. Alors là, on a vu Véronique Yvon et les autres dire, écoutez, ça mérite un débat plus large, le ministre, donc reculer. Mais dans le fond, le débat va se faire parce que la question est sur la table. Est-ce qu'on doit élargir l'aide médicale à ce genre de patients, donc des gens qui ont un handicap neuromoteur? Luc?
Mais moi, pour moi, il n'y a aucun doute que oui. C'est-à-dire que... mais aussi, il faut voir qu'en ce moment, les discussions sont très, très, très prudentes. Là. Revenons un petit peu sur la chronologie. D'abord, il y avait l'aide médicale à mourir telle qu'elle a été établie au départ. C'est, il faut que tu aies une mort prévisible. Il y a des États qui ont dit, par exemple, 6 mois. Il te reste 6 mois au moins à vivre. Il y en a d'autres, c'était beaucoup moins que ça. Là. Il te reste quelques semaines. Que tu as des souffrances incurables, que la maladie est incurable, que tu as des souffrances intolérables. Après ça, on a ajouté la notion, on veut ajouter la notion de prévisibilité, c'est-à-dire de programmation. Ça se peut, si j'ai une maladie comme Alzheimer, que je ne suis pas capable de prendre la décision au moment où je rencontre les critères. C'est-à-dire que je rencontrerai les critères, mais je ne serai pas capable de les énoncer au moment, à ce moment-là, parce que j'aurais perdu trop de ma capacité intellectuelle. Et dans les critères, il y a la nécessité de répéter à plusieurs reprises ton intention d'aller de l'avant, parce qu'il y en a qui changent d'idée. Et donc, tu peux pas faire ça quand tu as Alzheimer à un moment donné. Donc, il y a cette question de programmation. Là, il y a 2 ou 3 autres étapes où on dit, est-ce que, par exemple, pour la maladie mentale, est-ce que ça pourrait être aussi un cas où on dirait je vis des souffrances qui sont intolérables, c'est incurable. Tous les moyens ont été mis en œuvre, ça n'a pas fonctionné, mais ça, c'est à l'étude. Alors, à chaque fois, c'est ça. On se demande, est-ce que c'est incurable? Est-ce que tout a été mis en œuvre? Est-ce que je suis d'accord jusqu'à la dernière minute? Et là, on se dit, c'est beaucoup de conditions, ça. Est-ce qu'on pourrait faire précéder ça d'une programmation, c'est-à-dire, si jamais j'en arrive là, je voudrais qu'on mette fin à mes jours.
Nathalie.
Ben, tu vois, les nombreux questionnements que soulève Luc démontrent qu'on ne peut pas faire économie de débat sur ces questions-là qui sont extrêmement sensibles parce qu'au-delà de la dimension médicale, législative, là, ce genre de questions interpelle les dimensions éthiques et morales. À chaque fois qu'il s'agit d'élargir l'aide médicale à mourir, on est tous confrontés à nos valeurs, à la façon dont on voit la vie, notre conception de la vie, notre conception de la mort. Un commentaire sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, une précision, c'est le Collège des médecins hein, qui a recommandé cette idée d'élargir l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent d'un handicap neuromoteur grave. Ils ont réfléchi à la question, c'est bien. Ça, évidemment, ça a surpris l'opposition parce que ça faisait pas partie des recommandations du comité transpartisan sur l'aide médicale à mourir. Le ministre, c'est vrai qu'il a pris un pas de recul, mais je crois effectivement, comme vous deux, que ce débat, il est incontournable. Mais ce que je trouve triste, c'est que le projet de loi là, sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir va être adopté dans un délai de 2 semaines. Comment les parlementaires, en 2 semaines, peuvent adopter de nouvelles dispositions pour élargir l'aide médicale à mourir dans un si court laps de temps? Je trouve ça absolument désolant. On aurait dû faire ça en début de session. Ça, c'est mon commentaire de nature éditoriale là-dessus. Pour ce qui est de la dimension d'élargissement pour les personnes qui ont un handicap, là, bon, tu parlais, Paul, d'une personne, par exemple, qui a un accident grave, qui se retrouve handicapé, quadraplégique. Ça peut être les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Mais sachez qu'à partir du moment où on va ouvrir cette porte-là, puis qu'on va faire le débat sur cette question-là, il y a une autre question qui va nous rattraper. C'est celle des mineurs. Le seul endroit sur la planète où on permet l'euthanasie, parce qu'en Belgique, c'est comme ça qu'on désigne la chose, c'est en Belgique, c'est on permet l'assistance à mourir pour les mineurs. Et rappelez-vous, en 2021, il y a eu 2 cas qui ont capté notre attention, qui nous ont brisé le cœur. Celui de Jaden, qui est décédé 18 jours après sa naissance, sa mère, Myriam Drolet, a imploré le fait que le Québec puisse s'ouvrir, puisqu'on puisse se permettre la possibilité de permettre l'aide médicale à mourir pour des jeunes poupons qui n'ont aucune chance de survivre. Et dans le cas de Jaden, il est décédé parce qu'on l'a privé, on ne l'a plus alimenté. Oui. La seule façon de se... En fait, on l'a soulagé avec de la morphine, puis à la fin, sa mère disait, la morphine ne faisait plus effet. Il y a eu un autre cas, celui d'un petit garçon de 4 ans qui est atteint du syndrome de Mednick à Lillet. Sa mère, Karine Lynn Pelletier, implore effectivement le Québec à se pencher sur l'aide médicale à mourir pour les enfants. Le petit garçon, il est sourd, lourdement handicapé, déficience intellectuelle majeure. Il y a des problèmes importants d'intestin. Il est passé à côté de la mort plusieurs fois. Alors, ces questions-là, elles vont nous rattraper. Fait que si on ouvre la porte, puis moi, je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut être extrêmement prudent. Alors, je salue la sagesse du ministre. Paul, tu parlais d'un pas de recul, mais je pense qu'il n'a pas eu d'autre choix que de le faire.
Luc? Mais moi, je pense que les médecins, en règle générale, et les élus qui écoutent beaucoup les médecins, sont en retard sur la volonté de la population. C'est une question médicale pour l'instant. Il faut que tu puisses démontrer, dans tous les cas, là, puis c'est pour ça que tu donnais, Nathalie, des exemples de personnes où il n'y a pas un problème médical. Là, il y a une dégénérescence, mais il n'y a pas un problème médical. Mais il faut que tu puisses démontrer, donc, qu'il y a souffrance, qu'il va y avoir mort et qu'il n'y a pas de possibilité de traitement. Tout ça, ce sont des choix médicaux décidés par un médecin. Là-dedans, il n'y a pas la notion de dignité. Il n'y a pas la notion de fardeau. Ce ne sont pas les valeurs humaines de la personne qui désire mourir qui sont prises en considération. C'est son état de santé médicale.
Excuse-moi, pas je veux réagir là-dessus, mais la dignité, oui, c'est mourir dans la dignité. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on a choisi. C'est la voie qu'on a choisie au Québec, Luc, au-delà des dimensions médicales auxquelles tu réfères.
Parce que les termes écrits dans la loi, puis même, je vais te parler de la Suisse, les termes écrits dans la loi, c'est que tu dois avoir une mort inévitable, tu dois avoir des souffrance, c'est irrémédiable. Les souffrances, et on ne peut pas te traiter. C'est ça les termes écrits dans la loi.
Ouais,
et
je comprends, mais tout Suisse, ça réfère à la dignité Suisse, quand même.
Moi, je te parle de la dignité. Là, regarde, je n'ai plus de qualité de vie, je veux mourir. Donc, c'est pas de l'aide à mourir, là, c'est de l'aide au suicide. Parce que, rappelons-nous, là, pendant la pandémie, les personnes n'avaient plus le droit de sortir des CHSLD. Les soins, même minimaux, avaient été réduits. On te coupait pas les ongles, on te lavait pas les cheveux, les repas étaient déposés à la porte. Il y avait plus de relations, il y avait un isolement complet. Combien de personnes ont dit, dans ces conditions-là, moi, je préférerais mourir?
Mais moi, je veux juste quand même ouvrir une parenthèse sur le fait que d'avoir accès, ça ne veut pas dire que tu l'utilises.
Exact.
C'est important parce que c'est pas de dire nous allons pousser vers la mort les personnes handicapées. Il y a des gens qui peuvent faire le choix de l'aide médicale à mourir, mais il y a des soins de confort dans des cas. Il y a une série d'options, mais c'est pas un automatisme.
Tu as tout à fait raison. Premièrement, il y a plein de gens qui ne veulent plus. Après l'avoir obtenu, on leur a autorisé, ils ne la veulent plus. Ça arrive. Donc, 75% seulement des cas qui ont obtenu l'aide à mourir, qui se vont de l'avant par la suite. Et il y a des personnes qui changent d'idée, mais carrément. Là, par exemple, en Europe, dans les Pays-Bas, des personnes qui ont le droit de mettre fin à leur jour pour des questions de santé mentale et qui décident, après un certain temps, non, ils pensaient qu'ils étaient au bout du rouleau et non, bien qu'ils aient l'autorisation, ils décident de ne pas mourir. Alors, ça devrait, pour moi, ça confirme le fait que c'était un choix de l'individu.
Je sais qu'il faut sortir, là, mais deux données. Là. Il y a 1776 personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir en 2019-2020. C'était 63 en 2015-2016. Et de ces 1776 cas, il y en a trois quarts qui souffraient d'un cancer. La moyenne d'âge était 73 ans et 86% avaient un pronostic de vie de moins de 6 mois.
Merci. Au retour, rapport des commissaires pour la semaine.
La commission Normando-Ferrandaise.
Rapport des commissaires, c'est Nathalie qui commence.
Oui, qui a dit qu'on ne pouvait taxer les compagnies pétrolières qui s'en mettent plein les poches. Bravo au gouvernement britannique de Boris Johnson qui a annoncé hier une taxe spéciale sur les profits des compagnies pétrolières et gazières. En fait, c'est un plan d'aide. Ils ont annoncé un plan d'aide de 15 milliards de livres sterling pour permettre aux citoyens britanniques de faire face à l'augmentation des prix de l'essence. Ils vont aller chercher à peu près 5 milliards de livres sterling dans les poches des pétrolières. BP, le plus gros joueur du pays, a doublé ses profits au cours durant les trois premier mois de l'année, imaginez-vous, pour atteindre 6,2 milliards de livres sterling. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une livre sterling, là, une livre sterling, c'est 1 dollar à peu près 60 dollars canadiens. Fait que c'est quand même, ça vous donne une idée de l'ampleur du plan. J'ai envie de vous dire, si Boris et son gouvernement l'ont fait, pourquoi pas nous? Je trouve ça fort intéressant. Lorsque le sort s'acharne sur nos enfants, bien sûr, il y a eu cette semaine cette terrible tragédie dont on a parlé ensemble au Texas, mais il y a également au Sénégal, et ça a retenu mon attention. on a appris qu'il y a 11 nouveau-nés qui ont perdu la vie dans un hôpital qui a pris feu. Un incendie qui a été provoqué par un court-circuit. Évidemment, ça a causé une commotion terrible dans tout le pays. Le drame, c'est que ce n'est pas la première fois que des nouveau-nés perdent la vie dans un hôpital. C'est ça que ça fait, la pauvreté. Hein? Des infrastructures qui sont vétustes, du personnel médical qui fonctionne avec des moyens extrêmement limités. Et quand j'ai lu la nouvelle, je me suis dit, mon Dieu, que nos enfants ont la vie dure sur la planète. Hein? C'est pas simple. Quelle est la nouvelle qui a fait jaser cette semaine au Québec? Je vous pose la question. L'alerte Amber déclenchée dans la nuit de mardi à mercredi. Non, mais ça, c'est assez hallucinant, les réactions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, allô, la compassion, allô, l'empathie. Puis la prochaine fois, là, qu'il y a une alerte Amber au milieu de la nuit, pour ceux, évidemment, qui sont frustrés et qui sont de mauvaise humeur, je vous suggère une petite camomille.
D'abord, mettons que je pense à la première fois que ça arrive. Je me souviens pas d'une autre fois où on a été réveillé par l'alerte en veille. Il y en a eu le soir, là, mais tu sais, de la nuit, c'est la première fois, je pense.
Non, mais pourquoi on a l'épiderme? Ça, ouais. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on a l'épiderme à ce point sensible? Ah. Écoute, il s'agissait d'un enfant là qu'il fallait retrouver. Enfin, bof. Et la dernière est pour toi, mon cher Luc. Mm-hmm. Maman et bébé se portent bien, a déclaré le ministère de la Faune sur les réseaux sociaux cette semaine. Mais imaginez-vous donc un petit nouveau qui a fait son arrivée parmi les caribous du cheptel de Val-d'Or. Et il faut dire que le petit caribou est né en captivité. Dans Charlevoix, les choses vont très bien également. Des 9 femelles capturées en février dernier, 7 sont gestante. Alors, le ministre Pierre Dufour est sauvé. Nos caribous prennent du mieux.
Ah, il a sauvé 3 caribous. Hey, wow! On fait la vague.
J'ai tellement pensé à toi quand j'ai vu la nouvelle. Puis une mention spéciale rapidement aux enquêteurs pour policiers du SPVM qui ont démantelé un réseau majeur de production d'amphétamines. Nos bons policiers enquêteurs ont besoin d'encouragement puis tapent dans le dos de temps en temps. Là, 6,5 millions de comprimés qui ont été récupérés d'une valeur de 32,5 millions de dollars. Les policiers ont dit que c'est du jamais vu. Comme quoi, le crime organisé, ce cancer qui gangrène nos sociétés est toujours très actif.
Très bien, monsieur.
Donc, c'est rare que je fais la belle-mère, mais là, j'ai pas pu m'empêcher.
Vas-y donc.
Donc, cette semaine, je me rends compte que Valérie Plante a vraiment mis Projet Montréal à sa main. Alors, deux annonces qui m'ont surprise. D'abord, le stationnement gratuit au centre-ville. Et la même semaine, on annonce que le plan vélo, il va y avoir seulement 20 km de pistes cyclables, 17 millions de dollars d'investissement dans le plan vélo. 17 millions de dollars, là, pour donner une idée aux citoyens ordinaires, là, c'est même pas 1% de toutes les infrastructures. Donc, je trouve que c'est une orientation particulière, moi, parce que on parle de Vision Zéro. Et là, le cocktail de Projet Montréal qui s'en vient, puis... je pense que le slogan du cocktail, c'est la ville de demain ou encore. Fait, moi, un petit peu moins ce discours, un petit peu plus sur le budget, je pense que ça pourrait aider pour la vision.
Mais comment t'expliques ça?
Je pense que c'est une orientation de couper dans le budget de fonctionnement. Donc il doit avoir très peu d'ingénieurs disponibles pour faire des plans, pour concevoir. Ils ont dû couper beaucoup sans doute tout le temps suite à cette extrêmement mauvaise décision, j'arrête pas de le dire, d'avoir gelé les taxes en 2019. Donc il a privé la ville d'un budget de fonctionnement d'à peu près 150 millions de dollars et peut-être plus et récurrent par année. Alors mais quand même, elle vient d'être élue avec une forte majorité. Il n'y a pas d'opposants en vue. Il y a une vision claire de Projet Montréal. Il y a des militants. Et il me semble qu'il faudrait les écouter un petit peu. Bon, voilà.
Voilà.
Deuxième affaire, ce gars, toi, qui s'appelle Henri Zavriez, jeune homme qui est arrivé des États-Unis. Il avait 18 ans, pas un sou en poche. Et maintenant, il fait des profits de 13 millions de dollars il a procédé à lui tout seul à 1000 évictions. 1000 évictions et il s'est attaqué aux plus faibles, donc il est allé dans les maisons de chambre. Il a vidé les maisons de chambre, transformé ça en logement, en condo parfois, ou simplement en logement locatif, mais plus cher. Et donc, il a fait sa fortune sur la misère des autres. Et là, tu te dis, mec, si un gars tout seul de 18 ans qui connaît rien dans rien, qui arrive des États-Unis, puis qui réussit à faire ça, c'est peut-être que la régie du logement, le tribunal administratif du logement, maintenant qui s'appelle, a des failles énormes, gigantesques, des trous gros comme des cratères, une incapacité d'agir. Et ça me fâche de voir que des fois, dans les services de l'État, il y aurait juste le squelette puis le titre. Il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bras, il n'y a pas de muscles, il n'y a pas de capacité d'agir. Ça me fâche. Une étude de l'Université de Sherbrooke qui a été faite sur un très, très, très grand nombre de personnes. 4000 hommes ont été passés en entrevue et qui arrivent à la conclusion qu'il y a beaucoup de violence contre les hommes. Et ça, c'est surprenant parce qu'on a tout le temps pensé, parce qu'on regarde, on focus sur la violence ultime, c'est-à-dire la mort, donc les féminicides, évidemment que c'est dans 100% des cas, ce sont des hommes qui tuent des femmes. Mais quand tu regardes la violence ordinaire, donc la violence psychologique et physique, ils sont arrivés, mais tenez-vous bien, là, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a 20% des hommes qui disent avoir été victimes de violence. Mais là, on parle de, tu sais, de manipulation, contrôle, mépris, etc., harcèlement. Mais 6% des hommes disent avoir été victimes de violence physique. Et ça, c'est le double du nombre de femmes qui disent avoir été victimes de violence physique. Donc, morsures, claques, tiraillements, etc. Alors, à suivre, une hirondelle fait pas le printemps, une étude ne permet pas de changer nos perceptions, mais il va en falloir d'autres. Mais celle-là, c'est une grosse étude, puis il va falloir suivre cette affaire-là. Et mon dernier point, c'est l'espérance de vie à Rouyn-Noranda. Une espérance de vie de quelques mois de différence, tu dis, pas grave, tu sais, mais là, une espérance de vie de 7 ans de différence par rapport à la moyenne nationale. Et quand tu regardes à Rouyn-Noranda elle-même, c'est dans les quartiers où ça se produit, ce sont des quartiers qui sont sous le souffle de la fonderie. Là, tu dis, bon, ben, on a un méchant gros problème. Est-ce qu'on veut des emplois qui à ce point-là, c'est-à-dire des emplois qui mènent à la mort? C'est une question excellente à poser à Rouyn-Noranda parce que c'est tellement structurant. La fonderie, puis c'était historique, là. C'est attaché à la ville depuis des années, mais il va falloir poser la question quand même.
Merci à tous les deux. Bon week-end. On vous retrouve lundi.
C'est 23.